autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur l'art de la preuve en mathématiques. Comment arriver à l'eureka des mathématiciens, le fameux CQFD? Et si plus que ce point d'arrivée, ce qu'il fallait démontrer, la vraie quête, le vrai plaisir des mathématiciens se trouvait plutôt dans le cheminement qui y mène, ou plus exactement sur les multiples chemins possibles et impossibles qui signent une belle démonstration. Saviez-vous par exemple qu'on peut prouver par l'absurde, par construction, par contre-exemple, ou même par des crêpes? Et oui, qu'il y a aussi des manières moins orthodoxes de prouver, comme la preuve par l'oubli opportun, du genre on verra ça la prochaine fois, ou encore la preuve par intimidation ou épreuve de force, je défie quiconque de me prouver le contraire. Trêve de plaisanterie ou pas, c'est un professeur de mathématiques pas tout à fait comme les autres que nous recevons aujourd'hui. Yann Prado est également auteur et musicien. Il vient de publier CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques. Ouvrage original et ludique dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs et auditrices. Autour de la question « Pourquoi rechercher des inconnus en mathématiques ?» Bienvenue pour le faire ensemble, juste pour le plaisir.
Pour moi, en fait, les mathématiques, c'est un langage qui, certes, est assez abstrait, mais qui permet de formuler beaucoup de choses différentes. Et le fait d'avoir chacun sa propre représentation des choses et de confronter ces différentes représentations me semble permet d'avancer beaucoup. Quelque part, on est un petit peu bousculé dans sa propre conception du problème par ce que l'autre va proposer. Et je trouve que c'est ça qui fait évoluer les problèmes, les preuves, et qui permet d'aller de l'avant. Pour moi, les mathématiques, finalement, c'est très proche de l'art. Alors, je sais que c'est pas du tout ce que le grand public a comme représentation du scientifique ou encore moins du mathématicien. Mais pour moi, vraiment, c'est une discipline qui demande beaucoup de créativité, où à la fois le langage est commun, mais chacun a sa petite touche personnelle. Et c'est vrai qu'en confrontant différents points de vue, il me semble qu'on va plus loin.
La mathématicienne Laure Saint-Raymond définissait donc ainsi son art des mathématiques avec quelques mots-clés qui doivent évidemment vous parler. Yann Prado, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, évidemment, alors l'histoire du langage, la question du langage, ça me parle énormément en tant que professeur de mathématiques et aussi quand j'écris, parce que c'est vrai que moi, j'ai souvenir comme ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle nous dit. Moi, j'ai souvenir d'un cours, j'étais en maîtrise à la fac, et c'était un théorème d'algèbre, et le professeur énonce le théorème et il dit, voilà, un corps n'a pas d'idéaux propres. Donc un mathématicien entend cette phrase d'une certaine manière, puisqu'il sait qu'un corps est un outil algébrique, les idéaux propres en sont d'autres. Mais si on n'est pas mathématicien...
Un corps n'a pas d'idéaux propres.
Ça peut s'entendre autrement, c'est très surréaliste.
Ça peut être de la poésie aussi.
C'est même de la poésie. Et moi je me suis dit, et tiens, si on s'amusait à sortir les mots de leur contexte mathématique, ou au contraire en les tordant un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est déjà une phrase, un corps n'a pas d'idéaux propres, qui peut être le début d'une histoire qui ne serait pas mathématique, mais mathématique. Donc oui, il y a ce jeu sur la langue. Et je suis tout à fait d'accord de dire que voilà, chaque mathématicien, c'est Grothendieck qui disait hein, « Mon travail est avant tout construction de langage ».
Et d'ailleurs, vous avez publié en livre précédent une biographie de Grothendieck qui s'intitule « Algèbre ». Alors je rappelle que vous êtes, vous l'avez dit vous-même, Yann Prado, professeur de mathématiques, que vous venez donc de publier chez Flammarion CQFD 21 façons de prouver en mathématiques. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, car pour vous, Yann Prado, c'est le cheminement de la démonstration qui vous intéresse et qui fait toute la beauté des mathématiques. Je précise aussi que vous êtes non seulement professeur de mathématiques en lycée, donc vous travaillez sur le terrain, si j'ose dire, mais aussi auteur, écrivain, on l'a compris, et blogueur, sans oublier musicien, chanteur et compositeur, tendance rock français un peu subversif, on va y venir. Autour de la question pourquoi rechercher des inconnus en mathématiques, on peut dire aussi que ce sont toutes ces casquettes qui vous ont donné, Yann Prado, ce goût de la démonstration créative, parce que Laure Saint-Raymond parlait de créativité, la démonstration créative en mathématiques.
Alors certainement, en tous les cas, toutes ces casquettes ont permis d'habiller chez moi une forme d'anxiété. J'avais besoin aussi de l'occuper. Et c'est vrai que la mathématique, c'est une infinité de problèmes.
C'est pour vous faire travailler votre cerveau, pour moins faire travailler
pour,
le petit vélo.
Voilà, pour moins
faire
travailler un peu taire le petit chapeau, vélo, on va dire. Ça. Voilà, c'est ça.
Vous préférez la casquette que le chapeau.
Voilà, j'ai cette forme d'activité. Puis, en fait, je suis tombé dans les mathématiques par hasard. J'étais pas un bon élève.
Écoutez bien, chers amis, jeunes amis, auditeurs et auditrices, on peut ne pas être bon élève et finir professeur de mathématiques et auteur d'ouvrages.
Ça arrive, ça mène à tout. J'étais donc pas un bon élève et c'est une rencontre. Donc j'ai eu une rencontre j'ai eu un mentor en mathématiques, même deux mentors, c'est un couple que je continue de voir, avec qui je continue de m'entretenir.
Des professeurs de mathématiques.
Professeur de mathématiques, lui est docteur en mathématiques à l'université, il est à la retraite aujourd'hui et elle est doctoresse en didactique des mathématiques. Donc ça a été, de mon plus jeune âge jusqu'à très tard, des rencontres hebdomadaires autour des mathématiques. Et c'est ce travail, cette forme de un peu Madeleine de Proust, c'est-à-dire que passer le dimanche après-midi à chercher, pour moi ça évoque effectivement, il y a une sensation de temps arrêté et de bonheur simple. Et donc c'est vrai que le travail vers le résultat, et pour tout dire, le résultat est assez décevant une fois qu'on l'a trouvé.
C'est chercher l'important. Alors que vous dites, c'est pas trouvé finalement.
Non, trouver, c'est un peu, on a le baby blues, vous voyez, on se sent un petit peu désolé tout seul. Alors que chercher, ça occupe, des fois ça obsède. C'est Irving qui disait devenir obsédé, le rester. Et c'est vrai que des fois que ça obsède et ça crée, il y a des liens, des associations, des ponts. Et ce que disait la personne avant moi, là, c'est que effectivement, des mathématiciens vont avoir des manières de procéder qui sont complètement différentes. Là, j'étais en train de travailler là, sur des démonstrations anciennes de l'air. Donc on voit bien dans son travail, d'abord son originalité extrême, sa puissance, et puis le fait qu'il s'affranchit de ce qu'on ne sait pas. Il y a des questions qu'il sait qu'il y a un problème, mais il y va. Donc
C'est une quête, quoi. C'est d'être toujours en quête, d'avoir besoin de vous parlez aussi de beauté, de plaisir. C'est un peu tout ça à la fois, recherche en mathématiques.
Oui, il y a quelque chose. Alors ça, le plaisir et la beauté, c'est très net. Parce que moi, j'avais souvenir, je me souviens d'un travail comme ça. On travaillait par groupe et on devait chacun travailler sur le même problème, mais de manière différente. Et de voir qu'on était comme ça, à 6 ou 7 groupes, à produire des réponses différentes sur une même question, ça illustrait l'extrême diversité des approches. Et il y avait des approches qui étaient plus élégantes que d'autres. Il y avait aussi certaines approches qui étaient plus concises. Et c'est vrai que des fois, ça a ce petit goût, vous voyez, l'astuce qui, on disait entre nous, qui tue le problème. Alors, il y a quelque chose, il faut l'avoir trouvé. Il y a des choses, on dit, je mourrais moins bête ce soir. Il y a tous ces multiples plaisirs qu'on rencontre. Et puis, il y a la discussion, il y a quelque chose d'implacable entre nous. Quand c'est vrai, c'est vrai.
Eh oui, c'est ça. On va revenir sur ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. En tout cas, ce qui est vrai, c'est la beauté des mathématiques. Je propose d'écouter à ce sujet le célèbre et génial mathématicien Cédric Villani, qui s'exprimait ici même sur notre antenne quelques années avant qu'il ne se lance en politique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire le beau en mathématiques? Vous imaginez, j'aime bien cette analogie, imaginez que vous deviez expliquer à un sourd pourquoi la musique c'est beau. Hein, là, vous êtes un peu embêté. Vous réfléchissez, vous voyez qu'il y a une notion d'harmonie, une notion de mariage qui se répond, une notion d'instrument qui s'accorde pour donner une mélodie ou des différentes partitions qui se répondent. Mathématiques, ça va être pareil, une belle démonstration. Une démonstration dans laquelle différents ingrédients, différents concepts mathématiques vont s'arranger harmonieusement, se répondre les uns les autres, de façon à ce que chaque partie joue son rôle et que les agencements se fassent bien. Et puis, il y a une notion de surprise, évidemment. Si un morceau de musique vous frappe pas au cœur à un moment, vous surprend pas, vous n'allez pas vraiment le trouver beau. Et c'est pareil en mathématiques. Il faut qu'il y ait la surprise, il faut quelque chose d'inattendu, un argument qu'on n'attendait pas, un raisonnement qui semble sortir de nulle part, qui n'était pas naturel, et qui résout le problème d'une manière foudroyante peut-être.
la surprise, l'inattendu, l'inconnu. Vous voulez réagir, Yann Prado, à cet éclairage du beau en mathématiques version Cédric Villani?
Alors oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Cédric Villani. J'ajoute même, on pourrait croire Cédric Villani, c'est un grand mathématicien, médaille Field, et donc il faut avoir travaillé longtemps, longtemps pour pouvoir sentir, ressentir ce qu'il décrit. Prends l'exemple de la musique, c'est un petit peu comme si on voulait entendre Coltrane nous parler de l'improvisation et dire aujourd'hui j'ai improvisé en bleu. Et on suppose qu'il y a eu des couches d'abstraction avant de pouvoir dire j'improvise en bleu. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, cette sidération, cette rencontre avec la beauté mathématique, on peut la faire dès le début, très très vite. Moi, j'ai eu l'occasion avec ma fille, comme ça, de procéder, elle a 10 ans, hein, et donc de procéder à des petits exemples. Et c'est vrai que de lui montrer que, y a, par exemple, n'importe quel nombre peut être, se multiplier, enfin, et produit de facteurs premiers, donc c'est vrai de tous les nombres. Moi, je me souviens d'un exemple, la définition qu'on lui donnait du rectangle était 4 angles droits. Un quadrilatère a 4 angles droits. Et je lui ai dit, très bien, on peut en enlever un et on va voir ce qui se passe. Et on l'a fait avec 3 angles droits et ça marche aussi. Donc il y avait une chose, elle s'est dit, pourquoi ça marche avec 3 et on me dit 4? Voilà, il y avait donc, et c'est vrai que le
du
beau.
Du coup, il y a des questions à se poser.
Il y a
ça,
des
hein.
questions, on peut être guidé, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut commencer. Dès le début, dès qu'on se met dans les mathématiques, on est surpris. Pour reprendre le mot de Cédric Villani, il y a cette surprise, il y a cette idée, des fois, on touche, il y a une sorte d'harmonie sous-jacente, profonde, et qu'on la rencontre de temps en temps, puis des fois on passe beaucoup de temps à la chercher encore.
Mais
une
on
fois.
Peut la rencontrer, vous dites, dès le début, donc dès le démarrage d'enseignement des mathématiques. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée aujourd'hui et vous pouvez le faire toucher du doigt peut-être à vos élèves, en tout cas, vous pourrez le faire toucher du doigt à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, justement, Anne Jamena ou Mariaya nous demande, enfin nous parle de, autour de cette question des inconnus, hein, pourquoi rechercher les inconnus. Il dit pourquoi parfois on dit que X est une inconnue, parfois la réelle c'est X c'est 1, alors dans quel cas et pourquoi parle-t-on des inconnus et comment les rechercher? Comment pouvez-vous répondre à cette question-là,
alors, Yann Prado? Peut-être, je dirais ce que je peux dire à mes élèves. Moi, c'est un point de vue qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de montrer que les mathématiques, c'est aussi une affaire d'hommes et d'histoire. Donc l'inconnu X a une histoire, et la raison du X, c'est le mot arabe qui désignait l'inconnu, qui voulait dire chose. Et Descartes a abrégé le mot et en a gardé la première lettre qui était un X.
Voilà, donc l'histoire. Dans les mathématiques, il faut aller chercher du côté des grands savants arabes, comme beaucoup, beaucoup d'histoire des mathématiques.
Pour beaucoup, il y a eu l'âge d'or de l'algèbre arabe et donc le mot chose qui était l'inconnu que l'on cherchait. Alors pourquoi les Arabes ont cherché? Ça répondait à un problème pratique au début. Bien avant ça, chez les Égyptiens, il y avait des problèmes pratiques. Pourquoi et comment? Il y a un moment donné, on a arrêté la question du problème pratique pour se poser des questions abstraite qui ne répondait pas à une question issue de la vie courante. Ça, c'est une grande question. Les Grecs, ont fait ce basculement. Alors pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi il y a eu il y a des éléments de réponse? Moi, je les ai pas toutes. J'ai des idées. Je cherche. Il y a effectivement des éléments de réponse. Et à partir de cette progression là, on a arrêté
de passer dans l'abstrait pour résoudre des questions bien réelles.
Ou plutôt ne plus se poser la question de la résolution de questions réelles. Voilà. On ne cherchait plus à résoudre des problèmes de la vie courante, hein, réattribution de terres après la crue du Nil, par exemple. Mais on cherchait. C'est tout. On a cherché juste à résoudre des problèmes mathématiques. Donc ça a été cette abstraction. À un moment donné, les mathématiques se sont abstraits du réel. Pour y revenir à intervalles réguliers, bien sûr. Donc pour répondre à votre auditeur, c'est vrai que pourquoi chercher? Pourquoi c'est inconnu? Peut-être que chercher déjà, c'est le chemin.
C'est ça, hein. Finalement, ouais. C'est se mettre à chercher, se mettre en route et aller chercher, explorer toutes les capacités, finalement, de notre esprit humain. Capable de calculer, de penser et de s'abstraire.
Et puis pour reprendre cet exemple, oui, tout à fait, en cherchant à résoudre une équation, on s'aperçoit qu'on peut définir le nombre de cette manière-là, comme étant solution d'équation. Donc remplacer l'idée de nombre, qui n'est pas une idée simple, remplacer l'idée de nombre par celle d'équation. Et donc voir que deux nombres peuvent être considérés comme les mêmes ou équivalents s'ils sont solution de deux équations. Donc il y a comme ça, en tous les cas, les équations sont associées par les mêmes réponses.
Et donc il y a vraiment un cheminement en mathématiques. Alors Le chapitre 1 de votre ouvrage, CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques, s'intitule « Prouve-le !» Point d'exclamation, la preuve par intimidation. Allez, prouvez-le. Prouvez-le, Yann Prado.
Est-ce que vous avez déjà été en soirée ou à un moment dans un dîner et quelqu'un comme ça assène, je dis ça parce que moi je le fais, assène une sorte de vérité sur laquelle on ne peut pas revenir et utilise un argument soit vraiment mathématique, soit pseudo-mathématique. Hein. Il y a le vernis mathématique, c'est Mark Twain, je crois, qui disait « Les chiffres ne mentent pas, donc les menteurs aiment les chiffres. »
C'est magnifique, l'écrivain Mark Twain. Ouais.
Donc, c'est, il y a un petit peu... Ça sert, alors, donc j'ai voulu traiter effectivement de ce sujet-là, parce que les mathématiques peuvent être aussi utilisées, déviées. Donc, ce qui nous ramène à la question des hommes dans les mathématiques. C'est ceux qui font ça suit l'histoire. Je donne dans le livre l'exemple du nombre d'or. Donc, le nombre d'or qui serait la clé numérique de l'harmonie dans les arts. Voilà, donc historiquement, c'est quand même un peu compliqué de le dire comme ça. Et ce concept-là, aussi une histoire, et rentrer dans le détail du concept montre que c'est beaucoup plus de l'ordre de l'intimidation que de la vérité. Voilà.
Donc, forme de manipulation, finalement. Quand on est dans l'abstrait, quand on est à ce niveau-là de sphère et de compréhension, entre guillemets, du monde, ou de recherche de compréhension du monde, on peut aussi, finalement, enfin, peut-être pas manipuler, mais c'est selon l'époque qu'on va rechercher autre chose et croire qu'on a trouvé autre chose.
On peut être manipulé par soi-même, en l'occurrence. Mmh. La recherche de la vérité peut nous amener peut-être un peu plus loin ou un peu trop loin ou un petit peu en dehors et nous faire sortir du chemin qu'on avait emprunté. Donc, je suppose pas chez... Il y a un côté mystique dans la recherche qui fait que des fois, on peut... passer à côté et quitter. Mais c'est pour la preuve par intimidation, c'était aussi une manière un peu ludique d'amorcer ce chapitre-là et de dire si vous n'y arrivez pas sur le moment, c'est pas grave. Je veux dire, si on vous somme de le prouver au cours d'une soirée que vous ne pouvez pas, ça prouve rien du tout, en fait. Hein. La preuve, c'est aussi une question de temps, de réflexion et de retour. Hein. C'est pas immédiat.
C'est pas immédiat, la preuve, et la vérité n'est pas immédiate. Et même la notion de vérité est quelque chose sur laquelle on peut revenir. Et on y reviendra autour de la question de ce qu'il fallait démontrer. CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques. C'est le titre, je le rappelle, de votre ouvrage. Yann Prado, dont nous avons, je vous le rappelle aussi, chers amis auditeurs et auditrices, quelques exemplaires à vous faire gagner si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. En attendant, je vous propose un nouvel éclairage en forme de question soulevé par un autre chercheur original, lui aussi, iconoclaste également, professeur de sciences informatiques Rachid Guerraoui de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, qui était récemment notre invité. Écoutez-le, Yann Prado, car sa question s'adresse aux mathématiciens, mais aussi à l'écrivain, à l'auteur et aux musiciens que vous êtes.
On dit que prouver, c'est convaincre. Enfin, depuis les Grecs, prouver quelque chose à quelqu'un, c'est convaincre la personne que ce qu'on dit est vrai. Et effectivement, c'est développé au cours des siècles une technique mathématique de preuve pour convaincre l'autre que ce qu'on avance est vrai. Maintenant, pour quelqu'un qui est éclectique, est-ce qu'il n'y a pas en fait d'autres manières de prouver des choses à une personne en utilisant, je ne sais pas moi, la musique ou la littérature? Je serais très curieux de connaître l'avis de quelqu'un d'éclectique comme ça qui fait tout un tas de choses autres que des preuves au sens classique du terme.
Alors votre avis, votre réponse, Yann Prado. On aura très vite quelques preuves musicales de vos talents, mais en attendant, reste à convaincre, justement.
C'est vrai que le convaincre, la démonstration, hein, c'est le chemin. On est passé de la monstration à la démonstration. Hein, on disait « voix ».
Ça, c'est la monstration.
Ça, c'est la monstration. Et puis, il a fallu formaliser, et on est arrivé sur la démonstration. Donc, le voit, et c'est comme ça complexifié. Et maintenant, j'aimerais peut-être répondre, est-ce qu'il est toujours utile dans tous les domaines de vouloir la convaincre?
Bonne question. Que c'est pas utile de vouloir. Enfin, voilà. Peut-être c'est pas la peine de vouloir convaincre.
C'est peut-être pas la peine de convaincre.
Il y a peut-être plein de pistes et de choix et de chemins possibles, c'est ça?
C'est ça, de laisser les portes ouvertes. Et moi, effectivement, j'en ai emprunté plusieurs. Je sais pas si j'ai voulu convaincre, mais est-ce que c'est vraiment le chemin qu'il faut chercher? Et alors, vous parliez d'informatique, et c'est vrai que l'informatique est un outil qui est arrivé et qui convainc pas toujours. toujours, d'ailleurs, et qui pose d'autres questions intéressantes et qui laisse, qui laisse un peu les gens sur leur faim. Est-ce qu'on est convaincu d'une démonstration par programme? Voilà, il y a peut-être.
Est-ce qu'on veut se laisser convaincre ou calculer?
Est-ce qu'on veut le faire soi-même? Est-ce que le nombre peut nous convaincre de quelque chose? Des fois, ça nous laisse non, mais d'accord, je sais que tu as raison. Je sais que les nombres sont là et les chiffres ne mentent pas, encore une fois. Mais je ne suis pas complètement convaincu. Donc,
et il y a autre chose à tirer, à retirer ou à chercher encore, finalement.
Chercher encore, est-ce que ce n'est pas une adhésion qu'on doit obtenir avec les personnes à qui l'on parle? Dans la question de la preuve, il y a aussi la question des gens qui vont la lire. Donc, c'est-à-dire la question de la société, la question des pairs. Dans la question de la preuve, c'est pas un exercice qui se pratique seul. C'est pas un solipsisme. Donc, il y a un moment donné,
c'est pas j'ai raison, j'ai trouvé et c'est terminé. Voilà, c'est jamais ça.
C'est j'ai raison parce que les autres ont lu et valident la preuve que j'ai donnée. Il y a des histoires d'erreurs qui sont
très intéressantes.
Qui sont très intéressantes. L'histoire du théorème de Fermat, notamment. Et donc là, il y a en ce moment une démonstration aussi comme ça. J'ai deux, trois petites histoires que je raconte. Ça donne lieu, effectivement. Il y a par exemple, à l'heure actuelle, un théorème que l'on dit de manière ironique qui est vrai au Japon et faux ailleurs.
C'est-à-dire, par exemple,
c'est parce qu'un mathématicien japonais affirme l'avoir montré, que le reste de la communauté a consulté la preuve et ne s'estime pas convaincu par cette preuve. Et donc, surgissent et viennent s'ajouter à ce débat des questions un peu nationales. Et donc, on a conclu, c'est un théorème au Japon, une conjecture ailleurs.
Magnifique, donc un théorème, ça a été prouvé, et une conjecture, ça n'est qu'une conjecture,
c'est
pour le moment. Tout ce qui est vrai n'est pas forcément prouvable, d'ailleurs, comme le rappelait Gödel.
Voilà, il y a des choses qui sont vraies ailleurs,
C'est pas forcément prouvable. Alors, comment cuire des nouilles avec un théorème? Je vous cite dans CQFD, Yann Prado. Comment cuire des nouilles avec un théorème?
Alors déjà, est-ce que vous savez comment on cuit des nouilles?
A priori, oui, donc on les met dans l'eau bouillante.
On prend une casserole et puis on met de l'eau, on fait chauffer, puis on met les nouilles. Ça, c'est la première épreuve. Et ensuite, comment cuire des nouilles? On vide la casserole et on se renvoie au point 1.
Et donc on a fait des mathématiques en faisant une recette de cuisine.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne redémontre pas quelque chose qu'on a déjà démontré. Alors c'était l'anecdote quand Grothendieck est arrivé et rencontré
Alexandre Grothendieck, à qui vous avez d'ailleurs consacré une biographie qui s'intitule Algèbre.
Et qui a été un très très grand mathématicien et ce qu'on peut qualifier de génie du siècle dernier. Il est arrivé devant ses maîtres qui étaient Dieudonné et Schwartz à l'époque et il avait reconstruit un outil mathématique. Mais comme il l'avait fait tout seul, encore une fois, il ne savait pas que cet outil mathématique existait déjà. Donc la seule chose qu'il a obtenue, ça a été une engueulade homérique de Dieudonné qui lui a dit « c'est pas comme ça qu'on travaille. Les mathématiques, on les reconstruit pas, on s'en sert. »
Pour aller plus loin.
Donc voilà, donc la question de cuire des nouilles, c'est que si on sait cuire des nouilles, on est renvoyé au point 1.
C'est ça, ça y est, c'est fait. Et la preuve par les crêpes, alors?
Alors la preuve par les crêpes, ça c'était... C'est une preuve qui vous permet plutôt de découper une crêpe en deux parties égales afin qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc c'est une preuve que j'indique. Voilà, on sait qu'il existe un coup de couteau qui sépare une crêpe en deux parties égales, 50-50. Comme ça, au moment du goûter, vous pouvez éviter les drames familiaux. Malheureusement, la démonstration que je donne, elle ne dit pas où se trouve le coup de couteau. Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres types de preuves. Il y a des preuves qui sont constructives et d'autres qui ne le sont pas.
Et celle-là n'est pas très constructive. Alors il y a aussi, alors ça j'aime bien, mais là vous vous moquez un petit peu de nous, la preuve par enfouissement, écrire vite beaucoup de calculs, la preuve par calcul, alors je laisse tomber mes calculs pour passer à la suite, ça c'est pas mal non plus, moi j'adapterais bien celle-là comme preuve, et il y a aussi la preuve par gong, l'heure s'avançant, on va en rester là.
Il y a la preuve Star Wars aussi.
Allez-y.
Il y a longtemps, très très longtemps, dans une autre galaxie, ce théorème était vrai.
Ah, magnifique. Autour de la question, pourquoi rechercher des inconnus en mathématiques et comment les mettre en musique quand on est chanteur et professeur de mathématiques comme vous, Yann Prado, et auteur également. On écoute un extrait de vos œuvres au sein du groupe Malakoff. Yann Prado, le morceau s'intitule Alexis Bruce Lee. Et franchement, il vaut le détour.
Alexis s'ennuie au fond de la classe, il regarde ses godasses, sa copie presque aussi blanche que sa paire d'Adidas. À deux bandes seulement, le dernier cri.
Il ne comprend pas pourquoi les racines carrées s'additionnent pas, les puissances de 10 font ce qu'elles veulent devant elle. Alexis se sent un peu seul
depuis un mois. Quelque chose le perturbe, tant que pour se calmer, il se masturbe encore plus, pour oublier le nouveau super cadre qu'il vient de rencontrer. Pythagore.
Pythagore, il est beau, il est blond, il vend de la tisane, qui porte son nom, on le dit physicien. Philosophe, c'est clair, Pythagore, c'est le chouchou du prof. Alexis Bruce Lee.
Alexis regarde les films de karaté, de kung-fu, de Hong Kong ou d'ailleurs. Il aime quand le mec le moins baraqué met une peignée au malfaiteur. C'est pourquoi ses copies sont blanches. Il y passe son temps toute sa semaine, du dimanche matin au matin, du dimanche devant sa télé. Alexis s'entraîne.
Alexis, dans sa tête, c'est Bruce Lee qui mue. Il croit que c'est le cri qui tue. Dans ses rêves, il est un vrai mec. Il fait du nunchaku avec sa flûte à bec. Alexis Bruce Lee.
Alexis regarde les films de karaté, de kung-fu, de Hong Kong ou d'ailleurs. Il aime quand le mec, le moins baraqué, met une beignée au malfaiteur.
Alexis Bruce Lee sur RFI, signé du groupe Malakoff, votre groupe. Yann Prado, puisque vous êtes auteur, compositeur, c'est vous qui êtes au chant et à la guitare de ce morceau que j'imagine quand même inspiré peut-être par votre professorat, votre enseignement de mathématiques au lycée.
C'était il y a très très longtemps, un de mes élèves qui s'appelait Alexis et qui était au fond de la classe et qui était effectivement un petit peu perdu avec les choses que j'enseignais et qui avait décidé de voir si avec sa flûte à bec, il pouvait... réviser des passes de kung-fu, de nunchaku. Donc voilà, c'est, la chanson est née comme ça.
Alexis Bruce Lee, du groupe Malakoff. Donc, alors, je rappelle Yann Prado que outre le fait que vous soyez musicien, compositeur et guitariste, vous êtes donc professeur de mathématiques et auteur. Votre dernier ouvrage aux éditions Flammarion s'intitule CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques, et il arrache un peu lui aussi, un peu comme cet Alexis Bruce Lee. Voilà pourquoi nous vous en offrons un exemplaire, chers amis auditeurs et auditrices, avis aux amateurs et aux amatrices. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur le continent notamment. Alors comment encourager le développement des sciences mathématiques et de leur enseignement sur le continent africain? Comment mettre en lumière justement le plaisir qu'on peut trouver à faire des mathématiques, à développer une vraie culture scientifique en parallèle avec la culture littéraire et artistique? Je vous propose d'écouter l'éclairage d'une mathématicienne tanzanienne. Elle s'appelle Angelina Bijura. Elle est secrétaire du réseau de recherche sur l'enseignement des mathématiques en Afrique de l'Est, directrice de l'Inspire Second School en Tanzanie à Dar es Salaam, au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
J'ai découvert que j'avais envie de faire des maths à l'âge de 12 ans. C'est un peu par hasard, j'ai eu alors un enseignant qui a changé ma façon de voir les choses. En fait, il nous a enseigné en faisant devant nous des démonstrations. Et le sujet qui m'a le plus marqué alors, ce sont les nombres relatifs positifs et négatifs. Notre enseignant avait dessiné une ligne au sol et il nous faisait aller de gauche à droite par rapport à cette ligne pour nous expliquer comment on pouvait ajouter ou soustraire des nombres positifs ou négatifs.
Bon, ça, c'était des mathématiques assez faciles.
Yes, it was quite easy, but that was the beginning.
Oui, c'était facile, mais ce n'était que le début. Dès lors, j'ai compris que si l'on enseignait bien les mathématiques à un enfant, il peut mieux les comprendre, comprendre leur sens. Et c'est pour ça que j'aime enseigner les mathématiques. Il y a une vraie beauté dans la façon dont on pense en mathématiques, les modèles qu'on élabore. On sait ce qu'on veut en mathématiques, ce qu'on cherche. C'est ce que j'aime le plus dans cette mathématique.
Quel lien entre mathématiques et développement ?
Oh, il y en a beaucoup, car pour le développement, nous voulons que nos étudiants étudient ce qu'on appelle les STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les maths. Et ils ne peuvent pas devenir ingénieurs ou travailler dans les technologies s'ils n'y connaissent rien en maths. Donc, les mathématiques sont la base de la science et du développement. C'est particulièrement important en Tanzanie, car nous sommes un pays pauvre, je dirais un pays en voie de développement. Et la Tanzanie doit devenir un pays industrialisé. Pour cela, nous avons besoin de technologies. Il nous faut développer notre secteur informatique.
My hope is that it will change the way the teaching and learning of mathematics
Mon espoir, ce serait de changer la façon dont les mathématiques sont enseignées en Tanzanie. Nous avons un enseignement de mauvaise qualité dans cette matière. C'est un problème. Nous n'avons pas assez d'enseignants qualifiés. Et au sein de l'université de Dar es Salaam, qui est notre université principale en Tanzanie, où des programmes de mathématiques sont proposés, ils sont seulement près de 30 étudiants à étudier les maths, alors que des centaines, des milliers d'autres s'intéressent aux autres matières. Si nous voulons développer notre pays, il va falloir changer notre façon d'approcher les mathématiques.
Changer notre façon d'approcher les mathématiques. Vous voulez réagir à cet éclairage vu d'ailleurs, hein, vu de Tanzanie, d'Angelina Bijura, directrice de l'Inspire Secondary School à Dar es Salaam en Tanzanie et secrétaire du réseau de recherche sur l'enseignement des mathématiques en Afrique de l'Est, Yann Prado.
Alors oui, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'elle dit, c'est qui ressemble beaucoup à ce que j'ai dit, c'est le fait d'avoir à un moment donné une rencontre. Je sais que Cédric Villani disait la même chose, il est tombé sur un prof de maths en troisième qui
l'a ouvert.
Il a découvert quelque chose avec. Et là, c'est exactement ce qu'elle raconte. Moi, j'ai dit la même chose. Donc, il y a quelque chose de très humain. Il y a chance et parfois malchance. On peut faire des bonnes rencontres. On parle souvent des mauvaises rencontres en mathématiques. Et c'est vrai, peut-être que mettre plus souvent en avant les bonnes.
Il y en a des bonnes. Et Angelina Bijura, elle s'occupe du réseau côté Afrique de l'Est. Sachant aussi que tout ce qui est Afrique francophone et Afrique anglophone, plus à l'Ouest, il y a un énorme réseau d'excellence, hein, le réseau AIMS, d'instituts d'excellence en mathématiques, qui se développe sur tout le continent et qui justement veut organiser des rencontres. Et on salue d'ailleurs en passant les étudiants des promos de cette année, que ce soit à Dakar ou à Kigali. On en profite aussi pour répondre à cette question d'un de nos auditeurs à Bamako, au Mali, qui met les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. C'est Boubacar Konaré qui nous dit bonjour. Alors on le salue. Mis à part les calculs, nous demande-t-il, les mathématiques ont-elles des applications réelles dans la vie quotidienne? Alors là, une question qu'elle est bonne.
Ah, c'est une question qui pourrait... Enfin, j'attire juste l'attention dans ce que votre interlocuteur, interlocutrice précédente dit, elle parle de sciences et de mathématiques.
C'est vrai, c'est pas la même...
Elle met pas les maths dans les sciences. Et donc, dès lors, si on dissocie les deux, est-ce que vraiment la question des applications réelles n'est pas à laisser...
De côté, finalement.
Enfin... De côté, en tous les cas, voilà, il y a ces Hardy, le mathématicien, qui disait « Moi, ce que je fais ne sert à rien ».
Et c'était revendiqué.
C'est
de la recherche fondamentale, voilà, c'est de l'abstraction, c'est de l'art.
Il y a une mathématique pure et une mathématique appliquée. Ouais, ouais. Donc il y a des gens qui cherchent dans le but d'appliquer. Il y a des gens qui cherchent dans le but de ne pas appliquer. Malheureusement ou heureusement, l'histoire et la technologie les rattrapent.
Et appliquent finalement
ce qu'ils avaient démontré, qui ne devait pas avoir d'application. Donc... peut-être pour répondre à votre auditeur, la question, c'est deux questions différentes. D'abord trouver, puis ensuite on verra. Et des fois, il faut énormément de temps. Il peut se passer un siècle avant que l'on trouve une application à ce qui s'est, à ce qu'on a cherché. Donc peut-être que le but, c'est de chercher plutôt que de chercher quelque chose qui sert.
Ah, c'est ça. Et quand on cherche en chemin, toujours en chemin, on peut peut-être trouver quelque chose qui sert.
On peut.
Mais c'est en chemin et c'est autre chose qui se joue. On le comprend aussi dans votre ouvrage, hein, ZQFD, parce que vous inventez, allez, on va le dire quand même, une énigmatique et géniale mathématicienne chinoise qui s'appelle Maîtresse Mo et qui nous renseigne sur le chemin. C'est un peu Maître Yoda, hein, de la Guerre des Étoiles. La Maîtresse Mo, mélange de quoi? De mathématiciens et mathématiciennes géniales et qui est un peu oracle aussi.
Alors elle est un peu oracle, mais quand on parlait avec Cédric Villani du langage, c'est quelque chose que je me suis amusé. C'était une discussion avec mon éditeur à Flammarion. Moi j'avais aussi, c'était un espace d'écriture pour moi, donc c'est un espace de langue. Et effectivement, on dit chemin, mais on peut dire la voie. Donc la voie, la Chine. Alors il y a aussi une autre référence, c'est Maîtresse Mo comme Mao Zedong, qui était le philosophe de la vérité en Chine. Donc voilà, et qui est une école qui n'a pas... les Chinois en rapport à la vérité et notamment à la langue, et qui est différent d'une autre. Donc, notamment le fait que ce n'est pas une langue alphabétique, donc ça a des conséquences sur la mathématique chinoise. La mathématique chinoise s'est développée hors la preuve. Donc c'était comme ça, j'avais cet espace de liberté avec Maîtresse Mo. Et en inventant presque une mathématicienne plus vraie que nature, je me suis dit, j'ai questionné la question de qui est vrai.
Mais oui, et la vérité, le vrai, c'est à la fois au centre des mathématiques et en même temps C'est une notion philosophique. C'est quoi le vrai, la vérité? On l'a dit, quand on la détient, elle n'y est plus déjà. Enfin,
elle s'enfuit, elle nous glisse entre les mains. Comme trouver la vérité, c'est effectivement comme vider un évier avec les mains. Ça fuit. Oui, alors y a les philosophes ont consacré, et puis je n'ai pas tellement plus de choses à dire, les philosophes ont consacré beaucoup de temps à la question de la vérité, mais les mathématiciens ont aussi des réponses à ça. Alors, il y a eu historiquement, et il y a toujours, pas des querelles, mais des discussions profondes sur la vérité, celle qui se trouve au bout du chemin, en tous les cas. Donc la question, c'est le chemin que l'on emprunte. Certains chemins sont considérés par des mathématiciens comme posant des questions. C'est la question notamment du tiers exclu, qui dit une chose est vraie ou fausse. Donc, certains mathématiciens disent ouais, c'est un petit peu extrême de poser ce principe-là et de l'utiliser. Donc, ils veulent travailler sans ce principe. Or, la vérité qui en découle, disons que les chemins qu'ils empruntent sont différents. Et des fois, ils tombent sur d'autres choses. Donc, il y a comme ça des mathématiques presque parallèles qui se développent. Je dis presque parce que c'est un peu exagéré, mais en tous les cas, il y a des outils que certains mathématiciens acceptent et d'autres non, afin de trouver la vérité. Donc, il y a des chemins qu'on accepte d'emprunter. Et c'est vrai que cette vérité devient d'un seul coup plus mouvante.
C'est aussi des chemins de traverse, parfois aussi des chemins un peu de résistance, face à une pensée unique, face à justement un chemin tout tracé où il y a juste le but qui compte. Enfin, on le sent quand même dans vos écrits, dans la mathématique, les mathématiques en général, et puis dans votre personnalité aussi, Yann Prado. On le sent ça, il y a une forme de résistance quand même.
Je présume que oui. C'est vrai que j'aime quand j'étais enfant, que je voyais la finale Roland-Garros, moi j'étais toujours pour le perdant.
C'est ça. Donc en fait, un bon mathématicien, c'est pas l'arrivée, alors que votre ouvrage s'appelle CQFD, autour de cette question de CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Allez, je vous ai trouvé un CQFD original, signé IAM sur RFI, ça devrait vous plaire, Yann Prado.
La vie c'est violent, le monde c'est violent, ouais. L'argent c'est violent, les news c'est violent, ça. L'école c'est violent, c'est. L'amour c'est violent, yes. La rue c'est violent, donc le rap c'est violent, CQFD,
nous traite pas de méchants, ils ferment les usines, gratte de bénéfices et se fichent de faire crever les gens. Plaque la diligence, vise le pactole, farandole de corps pour un bout de sol. Combien lui font allégeance? Trop de sang dans les barils, trop de gaz dans les manifs. Tous veulent être califes, prêts à shooter les shérifs. Même la paix a les griffes acérées, battre les serrées en cage, prêts à s'entretuer juste pour passer les califs. Le fric c'est violent, la vie c'est violent, les gens sont violents. Tu veux que mon rap sonne comment? Alors ok, c'est décevant, y'a rien d'étonnant. Autant de paradoxes. Comment le mélange, le plus détonnant, la routine harcèle. Chacun de nous emporte les séquelles, large le panel. Et je compte pas se tomber dans le panneau, fini les cadeaux. Si on perd pied, on sort du tableau. Y'a aucune aide, peu de place à prendre et trop de rivaux. Le rap est bien moins cruel que la chienne qui le nourrit. Celle qui le rejette aussi, parfois bouffe ses petits. Sous la pression, on plie tellement, on n'entend même plus les cris. Ne blâme pas ma pub, elle tape seulement sur ceux qui médisent.
Au taf c'est violent, au sport c'est violent. Les comptes sont violents, tu veux que le rap sonne comment? Le globe est violent. Quand c'est la bourse qui commande, et l'actu est aussi selon qui la commande. La vie
c'est violent, le monde c'est violent, ouais. L'argent c'est violent, les news c'est violent, yes. L'école c'est violent, ouais. L'amour c'est violent, tu sais. La rue c'est violent, ouais. Donc le rap c'est violent.
CQFD.
Incroyable. IAM sur RFI avec CQFD. Ça rappe
La mathématique, c'est peut-être un moment d'apaisement dans un monde violent.
C'est ça, dans un monde de brouille. CQFD, en tout cas, c'est le titre de votre ouvrage. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques, Yann Prado, auteur et musicien, autour de la question pourquoi rechercher des preuves au sens mathématique. Même si c'est surtout le cheminement qui vous intéresse, vous allez tout de même, Yann Prado, devoir répondre à la question pratique de ma consoeur Mathilde Fontaise, du mensuel Sciences et Vie.
Quelle est la preuve que vous attendez le plus en mathématiques et quelle est celle dont vous savez qu'elle ne va jamais être donnée?
Votre réponse, Yann Prado.
Alors, en tant que professeur, la preuve que j'attends le plus, c'est celle qui va me convaincre, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Après, il y en a une, comme beaucoup de alors, je ne vais pas dire mathématicien, ce que je ne suis pas, mais comme beaucoup d'amoureux des mathématiques, il y en a une que nous attendons, c'est la preuve de l'hypothèse de Riemann.
Ça, c'est vraiment le graal des mathématiciens.
Oui.
Pourquoi enfin, sans nous, on ne va pas rentrer dans les détails, alors, hein, moi je n'y comprendrai rien. Déjà
parce qu'elle est extrêmement compliquée. Ensuite, il y a l'histoire. Moi, c'est l'aspect que je précise. L'histoire, c'est que c'est l'hypothèse de Riemann, formulée par Riemann, figure dans un article très court et tient quelques lignes. Voilà, c'est concis. Riemann a jeté ça sur le papier, puis ensuite il est quasiment passé à autre chose. Et depuis on cherche, mais alors après elle a des conséquences, elle a énormément de conséquences, et surtout les mathématiques ont continué de se développer avec et sans. Donc il y a certains qui disent, voilà, avec l'hypothèse de Riemann ça donne ça, on dit, bon, si elle est vraie on a ça, puis si elle ne l'est pas on a ça. Donc il y a comme ça une sorte de mathématique.
On en vient à multiples chemins, voilà, à partir d'une vérité, d'une démonstration ou pas. Dans votre ouvrage CQFD, vous n'avez peut-être pas répondu à
si, alors, si donc,
ça
veut dire
que jamais être donné, ce serait l'hypothèse de Riemann.
Voilà, l'hypothèse de Riemann, si un jour, je ne la comprendrais pas non plus, hein, mais si on me dit ça y est, c'est plus une hypothèse, à la limite, je serais presque déçu aussi.
Ah, c'est ça, en fait. Hein, tant qu'on cherche, tant qu'il y a une question, un point d'interrogation devant, ça marche. J'avais les yeux qui brillent quand vous dites ça. Alors, moi, je cite aussi vos preuves d'humour, hein, parce que vous faites vraiment preuve d'humour dans cet ouvrage CQFD. Alors, j'aime bien la preuve par détournement démocratique. Si personne n'y voit d'objection, nous pouvons conclure. C'est pas mal. Nos politiques, ils ont beaucoup appris cette preuve-là.
C'est une preuve de syndic aussi, ça.
Ah, une preuve de syndic aussi, pas mal. La preuve par embrouillamini logique. Alors là, moi, je me permets de la dédicacer à nos fidèles auditeurs. Christian Yachet, depuis Yaoundé au Cameroun, qui nous a envoyé une question. Moi, l'embrouillamini logique me plaît beaucoup. La contraposée de la négation étant équivalent à l'assertion réciproque, c'est QFD. C'est ça, hein? Voilà. J'ai pas compris, mais j'ai pas plus compris la question de Christian au Cameroun. Je ne suis pas mathématicienne. Autour de la question de cette gouaille mathématique et artistique, Yann Prado, vous trouvez aussi le temps de mettre votre grain de sel sur YouTube avec votre fille, dont on a déjà parlé, Camille, une dizaine d'années, je crois,
c'est ça.
10 ans, extrait d'une de vos œuvres à 4 mains et 2 voix, on l'écoute.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans...
Le grain de sel.
On la recommence parce que j'ai raté. Le grain de sel. Le grain...
De sel.
Avec Camille...
Et papa. Bonjour à tous et bienvenue sur le grain de sel.
Bonjour à vous. Alors, spécial vacances, hein, puisque ça y est, nous sommes en vacances. Ce matin, on n'a fait rien.
Voilà, c'est surtout hier matin qu'on a rien.
Voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui. Et puis qu'on sera un petit peu en retard dans les jours qui viennent, hein, parce que on va partir en vacances et on sera de retour de temps en temps.
Oui. Et on va surtout avoir, comme tout le monde là, la flemme.
Ah ouais, la flemme. Là. Et puis ça fait du bien d'avoir la flemme. Parce que le plus dur dans la vie, c'est ne rien faire. Et vous savez quelle est la devise du véritable flemmard ?
Je sais pas, moi.
C'est se lever tôt pour avoir plus de temps de ne rien faire.
Ouais.
Bon, vous n'avez pas honte, Yann Prado. Voilà, vous nous parlez mathématiques, un professeur de mathématiques, et vous partagez avec le plus grand nombre l'art de ne rien faire, mais aussi celui de s'émerveiller, hein, c'est quand même ça. Hein.
C'est ça. D'abord, je veux saluer ma fille. Elle est peut-être
en
tête.
Ah oui, bravo Camille.
Voilà, donc salut Camille. Si, j'ai comme tout le monde, j'ai honte, mais ça fait du bien. J'aime bien avoir honte.
Mais en même temps, quand vous parlez de cette flemme, de cette paresse, de ne rien faire, on se dit qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du cheminement. C'est-à-dire que c'est quand on, c'est rêvasser, mais rêvasser intelligemment, mais c'est quand même là qu'il peut aussi sortir quelque chose.
Ah, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup avec l'idée d'association d'idées, d'esprit qui flotte entre deux eaux, et puis il y a une idée qui s'associe à une autre, et les associations créent des ponts, et des ponts créent des chemins, c'est des briques qui s'ajoutent les unes à les autres, les unes aux autres. Et quand j'écris, effectivement, c'est quelque chose... Donc, ne rien faire, on ne fait jamais rien. C'est un petit peu, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien ?
Un mathématicien, il réfléchit et il pense, et au fond, il ne fait jamais rien.
Voilà, il ne fait jamais rien. Le rien n'existe jamais vraiment. C'est vrai qu'on est pris dans un tourbillon d'activités que l'on ne maîtrise pas, et qu'à un moment donné, on est effrayé par l'idée de devoir ne rien maîtriser ou maîtriser le fait de ne rien faire. Et c'est vrai que ça nous renvoie encore une fois à l'autre. Hein. L'autre, on se dit, on est sous le regard de quelqu'un qui nous dirait, mais comment, tu n'as pas honte de ne rien faire ? Non, j'ai pas honte, c'est très bon.
Surtout que vous, quand même, quand vous ne faites rien, vous faites un livre, vous donnez des cours de maths pendant l'année, vous faites votre chaîne YouTube et vous faites de la musique par ailleurs. Qu'est-ce que ce serait le message, s'il y en a un, que vous voulez faire passer, Yann Prado? Je pense quand même que, en tout cas, on lit entre les lignes, notamment dans cet ouvrage chez QFD, 21 façons de prouver en mathématiques, où vous mêlez l'histoire des sciences, de l'histoire des mathématiques, de la preuve, de l'humour. Il y a tout ça en même temps.
Est-ce qu'il y a un message que je cherche à passer? Je sais pas, mais en tous les cas, il y a une unité. Bon, peut-être que l'unité, en tous les cas, il y a quelque chose. Vous parliez du chemin, je crois que c'est ce qui nous a guidés tout au long de cette émission, hein, mm-hmm. c'est emprunter le chemin. C'est Larsenet, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, oui. qui disait... Manu Larsenet, dans un de ses personnages, qui disait c'est pas le chemin difficile, c'est le difficile qui est chemin.
Magnifique. Il y a aussi Antonio Machado, Caminando no hay camino. El Camino, c'est assez à l'andar. Donc, il n'y a pas de chemin et le chemin se fait en, voilà, se fait en marchant.
On marche, voilà. Et c'est vrai que la déambulation, je suis venu en partie en marchant, c'est la déambulation qui permet... Déambulons.
Et vous êtes tout de même professeur de mathématiques, donc vous allez reprendre le lycée après ces vacances scolaires françaises. Qu'est-ce que vous faites passer? Vous avez l'impression que ça marche? Ça peut marcher aussi avec vos élèves, hein. Vous avez fait une chanson sur Alexis Bruce Lee, mais ça peut marcher, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose à dire, à faire pour encourager l'esprit vagabond, mathématicien ou pas.
J'essaye. En tous les cas, c'est compliqué parce que la mathématique, ce que nous disions, est chargée d'une histoire, enfin chargée d'une attente. Hein, les parents attendent que leurs enfants soient bons en mathématiques parce que c'est ce qui permet d'eux, et toutes ces choses-là obscurcissent la beauté et viennent jeter un voile. Et donc j'essaye en tous les cas que mes élèves passent un bon moment. Je veux dire, c'est pas de l'amusement, mais et surtout que tous, qu'ils soient bons ou pas, ou qu'ils aient des difficultés ou pas, que tous ne se sentent pas stigmatisés. En tous les cas, voilà, j'ai essayé d'accorder à tous la même attention et que tous puissent progresser et parcourir à leur vitesse ce chemin.
Eh ben, on reste sur le chemin. On a envie de vous suivre sur le chemin de la preuve et de la démonstration. Pour vous suivre, justement, on peut se procurer et lire votre ouvrage vraiment ludique, enfin voilà, qui se lit par petits bouts. On peut sauter des morceaux aussi, mais CQFD 21 façons de prouver en mathématiques, publié chez Flammarion. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, que nous avons un exemplaire à vous offrir. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Et sachez aussi qu'en joli lot de consolation, nous avons aussi un autre ouvrage qui est réconcilié avec les maths, paru aux éditions Belin. Il s'intitule « Vous aimez les maths sans le savoir » sous la plume d'Antoine Houlou-Garcia, illustré par Olivier Carvalho. Un autre voyage enthousiaste au cœur des mathématiques a gagné lui aussi. Qu'on se le dise, ça ne fait pas de mal. Merci infiniment.
Merci.
Yann Prado, vous revenez quand vous voulez, peut-être avec Camille, quand elle sera un poil plus grande.
Voilà, elle revient, elle viendra mettre son grain de sel dans l'émission.
Absolument. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur toutes vos applications favorites. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, la tête dans les étoiles. Autour de la question, pourquoi décrocher la Lune carrément? En compagnie de l'astrophysicienne Fatoumata Kebe et de quelques invités surprises sous le soleil de RFI. Exactement. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Chers amis auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité. Merci de votre interactivité, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.